Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
At 2 a.m., just looking at my phone, and my Microsoft Teams logged me out. I was like, oh, okay, I probably just need to reset my password. But then I try, and then it says my account was blocked. I had like a straight-up panic attack.
Jusqu'au week-end dernier, Bradley Olson était l'un des 140 000 salariés de Tesla dans le monde. Il travaillait sur les modèles Y dans la Gigafactory du Texas. C'est par un email signé Elon Musk qu'il a appris en pleine nuit, ce lundi, que son poste était supprimé. Le fantasque patron de Tesla a décidé de se séparer de 10% de ses effectifs. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'hiver électrique. Rien à voir avec notre printemps qui a bien du mal à s'installer. C'est ainsi que les spécialistes qualifient le ralentissement des ventes de voitures électriques. En Europe, les ventes augmentent moins que celles des voitures thermiques depuis le début de l'année. Le chinois BYD a écoulé pour sa part sur les trois premiers mois de l'année 43% de voitures en moins par rapport au trimestre précédent. Les raisons avancées pour expliquer ce coup de froid, baisse des subventions dans certains pays, véhicules trop onéreux, manque de bornes ou encore les entreprises qui basculent moins vite que prévu leur flotte en électrique. Mais tout cela serait temporaire. La plupart des constructeurs vont arriver avec des voitures d'entrée de gamme moins chères. On peut citer en France la Citroën C3 ou la R5 de Renault. Ce sera encore plus vrai pour les marques chinoises qui acheminent en ce moment leurs modèles en Europe. Ce qui pourrait relancer la demande, mais qui risque bien de laminer nos constructeurs européens. Espérons que la prochaine fois, l'email nocturne n'arrivera pas de Renault ou Stellantis. Mais cela, c'est une autre histoire.
On n'arrête pas l'écho. Emmanuel Dutheil sur France Inter.
Bienvenue dans votre Mag Echo. Alexandra Ben Saïd revient le week-end prochain et nous, on est ensemble jusqu'à 10h. Une émission réalisée par Charles de Silia, mise en onde Céline Hila, préparée par Valentin Pérez avec au mixage cette semaine Vincent Désillère et à la technique ce matin Mathias Alléon. Décarboner l'industrie et réindustrialiser la France. Est-ce que ce double pari est tenable? A-t-on les bons indicateurs pour mesurer les engagements annoncés par nos gros pollueurs? Les 50 sites les plus polluants se sont engagés à réduire d'au moins 45% leurs émissions de CO2 d'ici à 2030 et atteindre à l'horizon 2050 la neutralité carbone. Notre reporter, Jihan Bergaoui, est allé chez l'un d'eux, la cimenterie Equion, dans le Nord-Pas-de-Calais, voir ce qu'ils font vraiment pour se décarboner. On poussera avec elle les portes du chantier. Notre invité ce matin, justement, c'est le directeur général d'ArcelorMittal France. La scierie qui a eu l'honneur de fabriquer les torches et les anneaux olympiques promet lui aussi de se décarboner. Comment y arriver tout en restant compétitif? Comment redonner envie aux jeunes de travailler dans l'industrie? On va parler de tout cela aux alentours de 9h40. Alors comme chaque samedi, on retrouvera aussi Madame Vie au boulot. J'ai nommé bien sûr Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Et vous répondrez ce matin à une question de Stéphanie qui a un problème. Son entreprise n'a pas aimé un de ses posts sur les réseaux sociaux.
Oui, il lui reproche d'avoir relayé sur son compte LinkedIn, où se trouve aussi le nom de l'entreprise, un post sur la souffrance animale. Que risque-t-elle? Je vous le dis tout à l'heure.
Et on vous retrouve bien évidemment en fin d'émission. D'ici là, on va passer au débat. Bonjour Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bonjour Léo Klim, vous êtes journaliste à Paris pour le journal allemand Die Spiegel.
Der Spiegel, bonjour Emmanuel.
Tout va bien?
Bonjour à tous.
Tout le monde est en forme?
En forme.
Samedi matin? Bon, parfait. Mise en place des salaires décents chez Michelin contre salaires jugés par certains indécents pour Carlos Tavares chez Stellantis. C'est ça le thème du débat du jour.
36 millions et demi d'euros.
Rémunération du patron de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial, au cœur de crispation.
Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat.
Carlos Tavares.
Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%.
PDG de Stellantis.
Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Son salaire, c'est nos conditions de travail. C'est la dégradation de nos conditions de travail.
Marc Darcy, délégué syndical Sud Stellantis, Poissy.
La densification des postes de travail était en contradiction avec l'âge vieillissant de la population ouvrière. Aujourd'hui, même les jeunes intérimaires qui sont pris régulièrement pour donner des coups de boost à la production, même eux, ils n'arrivent pas à tenir les cadences.
En Europe, on voit qu'on est beaucoup plus égalitaire qu'aux États-Unis.
Anne-Sophie Alcier.
Et pourtant, on a beaucoup plus ces questions.
Chef économiste de BDO France.
En France, on voit ce que publie l'INSEE. Avant, on est à 1 à 15 en termes d'inégalité. Après redistribution, on est de 1 à 3. Donc, on a vraiment une baisse massive des inégalités grâce à notre système de protection sociale et de redistribution.
Michelin veut instaurer au niveau mondial pour tous ses salariés dans 175 pays ce qu'il appelle le salaire décent.
Le leader mondial du pneu annonce avoir ajusté les rémunérations de ses 132 000 salariés à travers le monde, alignés notamment sur les prix de l'immobilier dans chaque région.
Le salaire minimum, il est défini pour dire qu'il faut qu'un salaire puisse permettre à une famille de pouvoir avoir accès non seulement à la nourriture, mais aussi au logement, à la culture, au transport, aux loisirs, aux vacances.
Florent Ménégaud, président de Michelin.
Parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'une personne puisse se projeter. Ouais. Michelin existe depuis 130 ans. J'espère bien que Michelin va exister pendant encore un siècle. Et la condition, c'est que les personnes qui travaillent chez Michelin s'y retrouvent.
Bienheureux les salariés de Michelin.
Christian Deboissieu.
Deux fois le SMIC, c'est le salaire moyen en France.
Professeur d'économie à Paris 1, vice-président du Cercle des économistes.
Donc, à mon avis, la voie Michelin, elle n'est pas généralisable. Vous faites voter les gens, effectivement, ils sont pour. Mais ils sont aussi contre les destructions d'emplois, donc il faut être cohérent. Le salaire minimum, c'est important de l'avoir, de le conserver. Il ne faut pas trop jouer là-dessus.
Alors, après l'approbation polémique du salaire de Carlos Tavares chez Stellantis, Michelin a annoncé avant-hier vouloir mettre en place, d'ici à 2 ans, un salaire donc décent, c'est comme ça qu'on l'appelle, à l'ensemble de ses 132 000 employés dans le monde. Alors, pour être clair, la notion de salaire décent, elle est calculée géographiquement, en fonction du salaire qu'un travailleur touche pour lui permettre de couvrir ses besoins de première nécessité, ainsi que ceux de sa famille. Un salaire décent doit également permettre d'assurer l'éducation des enfants, de se constituer une épargne de précaution, puis d'avoir des loisirs. Le niveau de salaire décent peut varier même à l'intérieur d'un même pays. Ce ne sera pas le même à Clermont-Ferrand qu'à Paris. Alors, Michelin n'est pas la première entreprise à le faire. Schneider et L'Oréal l'appliquent déjà. Marc Vigneault, si vous le voulez bien, on va débuter avec vous. Première question toute simple. C'est une bonne idée, c'est la mort du SMIC ?
Alors déjà, je crois que Michelin, c'est la première entreprise à vraiment se focaliser sur ce salaire décent. Les autres, c'est plutôt des packages de
effectivement, c'est eux qui vont le plus loin dans cette idée du salaire décent.
De congés, etc. Donc, sur le salaire décent, ils sont quand même assez pionniers. Alors, pour moi, non, c'est pas du tout la mort du SMIC. D'abord parce que Michelin, c'est un industriel. Donc, il a dans l'industrie, les salaires sont plus élevés qu'ailleurs. Par ailleurs, Michelin, donc comme vous l'avez bien dit, distingue des salaires à Paris ou à Clermont-Ferrand. Et par exemple, à Clermont-Ferrand, moi j'ai fait mes petits calculs, j'ai regardé, bon quand on regarde le SMIC plus la prime d'activité, l'augmentation elle est quand même très très limitée. Alors il y aura encore la prime...
Vu votre tweet, c'est quasiment encore... 40 euros d'écart, c'est ça?
Ça dépend un peu des paramètres qu'on choisit, mais en fait, si même avec le niveau de salaire retenu par Michelin à Clermont-Ferrand, il y aura toujours de la prime d'activité, ce qui veut dire que l'État est toujours en clair en train de compenser pour vous amener à un certain niveau de salaire par une prime. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment, ça suffit pas vraiment pour être à un niveau que l'État a déjà défini comme celui qui devait être distribué.
Mais est-ce que c'est pas encore plus important hors de France, dans les pays où le salaire minimum il est parfois quasi de zéro ou très très loin de la réalité de ce pour quoi on a besoin pour vivre?
Alors vous me coupez l'herbe sous le pied, Emmanuel, effectivement, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est plus, à mon avis, quelque chose pour les pays en développement, pour améliorer leur couverture sociale aussi, qui n'est pas forcément la même que chez nous. Et donc, à mon avis, cette annonce est plus importante là-bas. Après, en France, il y a quelques dizaines de familles chez Michelin ou d'individus individus, je ne sais pas, qui étaient payés sous les seuils annoncés. Mais Michelin a des problèmes d'attractivité. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un énorme coup de pub, à mon avis, qui est fondé. Hein. Ils payent des bons salaires, etc. Mais ils avaient un problème d'attractivité, donc ils payent mieux. Donc en fait, le marché fait que quand vous avez du mal à recruter, bah, vous payez mieux pour avoir des salariés qualifiés et qui fassent du bon boulot. Et en plus, Michelin fait de la montée en gamme.
Donc c'est plus pour vous une sorte de coup de com' que le Michelin un peu originel, le groupe qui a toujours été un peu protecteur.
Non, mais il y a un peu des deux. Rien n'est noir ou blanc. Il y a un peu des deux. Mais évidemment, quand la façon dont c'est annoncé, c'est aussi un coup de com'. Parce que évidemment, quand on a des difficultés de recrutement, bah, on augmente les salaires. Et quand on en a les moyens, bah, on le fait. Et tant mieux pour eux s'ils peuvent bien payer. Mais on peut ne pas croire que dans les services à la personne, par exemple, on pourra payer comme chez Michelin. Ça dépend de la productivité du salarié. Et je rappelle, et j'en ai fini, qu'à long terme, les salaires sont déterminés par l'évolution de la productivité. Et si votre productivité n'est pas bonne, eh bien vous ne pouvez pas augmenter les salaires sauf à mettre les entreprises en difficulté. Et donc, il faut regarder l'évolution de la productivité en France.
Effectivement, Léo Klim, je rappelle que vous êtes journaliste à Paris pour le journal allemand Spiegel. Ça vous inspire quoi ?
Je pense que c'est largement effectivement de la com qui s'adresse au public français et relativement facile puisque, comme Marc vient de le dire, il n'y a quasiment personne chez Michelin qui est payé au SMIC. Et il n'est même pas question d'augmentation de salaire. C'est juste un statement comme quoi, voilà, nous, on veut faire, on définit comme ça un salaire décent. Deuxièmement, je pense que dans certains pays, notamment en Allemagne, les salariés de Michelin en ont un peu ont du mal à avaler ça, puisque Michelin est en train de fermer deux usines en Allemagne, tout en annonçant ce salaire décent. Cela étant dit, d'ailleurs, le patron de Michelin défend ces fermetures en disant « ça ne nous exonère pas de devoir rester agile, de nous adapter au marché
bah, ». Au contraire, ça exige de s'adapter au marché
voilà,
et d'être compétitif.
Encore un peu plus. Ce que je trouve intéressant dans cette annonce, c'est donc la notion de décence. La décence, a priori, c'est pas un terme économique, c'est un terme moral. Donc, Michelin accepte de se soumettre à un jugement morale en disant il y a un salaire décent, ça sous-entend qu'il y a des salaires indécents. Et c'est là, bien sûr, qu'on vient se rapprocher d'un modèle opposé. On a, avec Michelin et Stellantis, deux modèles de capitalisme, un plus social et un plus boursier,
mais
libéral.
Certains salaires pourraient être aussi indécents au bas de l'échelle. C'est-à-dire certains collaborateurs dans certains pays pourraient être mal payés au regard du travail fourni et la contribution qu'ils peuvent apporter
absolument.
À la réussite de l'entreprise.
Ce que Michelin accepte, c'est que l'écart qu'on a évoqué ne doit pas être trop fort entre le patron qui, lui, plafonne chez Michelin son salaire à un peu moins de 3 millions et ce qui est le plus bas salaire. Et là, chez Michelin, on a un multiple de 50, un écart de 50, alors que chez Stellantis, on a un multiple de plus de 500.
Oui, enfin... On va y revenir sur un salaire exceptionnel pendant Marc.
C'est pour ça que j'évoquais la prime d'activité, parce que qu'est-ce qu'un salaire décent ? On peut y mettre tout un tas de critères et ce que je disais, encore une fois, c'est que pour une famille, ils nous disent, ça doit faire vivre une famille de 4 personnes, même quand il n'y a qu'un salaire à Clermont-Ferrand. Bah non, quand on regarde les niveaux de salaire aujourd'hui et ce que met l'État pour compléter le salaire, bah non, ce que propose Michelin, ce n'est pas un salaire visiblement qui est considéré par l'État français comme suffisant,
oui,
puisqu'il va encore verser une prime à ce niveau de salaire.
À Clermont-Ferrand, c'est 25 356 euros le salaire considéré comme décent. Est-ce que ce débat existe aussi en Allemagne, Léo Klim ?
Bien sûr, le débat de qu'est-ce qu'est un salaire suffisant est, je pense, consubstantiel de toute économie sociale de marché. C'est-à-dire que quand on est dans les pays européens où on n'est pas juste dans un capitalisme qui accepte que voilà, le salaire de chacun, c'est son juste paiement, on va toujours avoir ce débat-là. Par contre, en Allemagne, on a un SMIC depuis moins de 10 ans. Ça a été assez long pour l'introduire, sachant qu'aujourd'hui, ce SMIC-là est plus élevé qu'en France.
Et d'ailleurs, assez ironiquement, ce salaire décent de Michelin est donc, comme vous l'avez dit, adapté en fonction... Il n'est pas le même en région parisienne qu'à Clermont-Ferrand. Et
parce qu'à Paris, c'est 39 638 euros, donc 14 000 euros de plus qu'à Clermont-Ferrand.
Ça pourrait défendre une logique qui était avant le cas en France, et qu'il y avait un SMIC qui était adapté à là où on vivait. C'est-à-dire qu'on...
Ça repose la question de la régionalisation.
On ne peut pas vivre de la même façon en Ile-de-France. France qu'à Clermont-Ferrand. Donc ça reposerait théoriquement la question de la régionalisation du SMIC. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde veuille ouvrir ce dossier.
Alors on avait appelé ça salaire décent versus salaire jugé indécent pour certains. Bon, il faudrait vraiment partir au fin fond du Groenland pour pas savoir la polémique autour de Carlos Tavares. Je rappelle ce chiffre, hein, 36,5 millions d'euros de rémunération pour une année de travail. La gauche réclame une loi. C'est quand même un sempiternel débat, Marc, un débat compliqué à trancher, mais on entend quand même revenir la petite musique, y compris au sommet de l'État, sur « il faut taxer plus les plus riches ».
Oui, bah je crois que c'est ça qu'il faut noter, c'est que le Brésil, en premier lieu, le président Lula et la France défendent une taxation des milliardaires au niveau mondial, parce que le faire dans un seul pays, ça serait se tirer une balle dans le pied. Et donc, comme on l'a fait pour les grandes entreprises multinationales avec un impôt minimal, qui
on a vu que ça a pris à peu près 15 ans pour y arriver.
Voilà,
donc là.
Ça prend du temps, mais le Brésil est motivé. Il y a d'autres pays qui sont motivés. Il faut voir si Donald Trump évidemment est élu aux États-Unis ou si c'est Joe Biden qui reconduit, parce que Joe Biden a l'air assez ouvert à cette idée. Et donc, je pense qu'il faut le faire dans le cadre d'une coopération internationale. Il y a quelques années, en 2022, Emmanuel Macron avait dit « Je voudrais plafonner le salaire des dirigeants, déjà en voyant la rémunération de Carlos Tavares, au niveau européen ». Et on voit bien qu'au niveau européen...
De toute façon, il faut que ce soit au niveau européen, parce qu'il faut le rappeler, hein, Stellantis, le siège, il est aux Pays-Bas, et personne ne sait très bien où Carlos Tavares paie ses impôts.
Et alors là, Bruno Le Maire est allé voir ses homologues un petit peu de manière un peu informelle, et il a dit, bon, est-ce que vous êtes prêts à utiliser le cadre européen pour plafonner le salaire des dirigeants? Et puis, il a constaté qu'en Allemagne, par exemple, il y avait une coalition très divisée et qu'il ne porterait jamais ce sujet.
Léo Klim, qu'est-ce qui se passe du côté de... l'Allemagne, voilà que vos patrons, on va presque les plaindre. Ils sont très, très, très loin du salaire de Carlos Tavares dans l'automobile.
Les pauvres. alors, le premier salaire de manager en Allemagne pour 2023, c'est quand même celui de Mercedes. Le patron de Mercedes a pris 13 millions. Il n'est pas tellement à plaindre. Les patrons de BMW et de Volkswagen sont chacun autour de 10 millions. Donc ça va, ils sont pas trop à plaindre. Mais il y a eu aussi ce débat sur est-ce qu'il faut limiter par la loi les salaires des grands patrons.
C'est un débat qui, comme chez nous, reste en l'air ou pourrait aboutir.
Je crois pas que ça pourrait aboutir. On l'a eu plusieurs fois. Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est réfléchir quand même à la taxation. Quand vous voyez, je prends l'exemple de la France, que vous êtes traité au même taux que vous ayez 178 000 par an ou 10 millions, il y a...
Pas tout à fait au même taux, on a quand même une imposition proportionnelle avec un taux marginal d'imposition qui progresse, plus on gagne de l'argent, quoi.
Bien sûr, mais après, il n'y a plus tellement de différence qui est faite sur...
Même pire que ça, sur les milliardaires, une étude de l'Institut des politiques publiques qui montrait que quand vous aviez une holding personnelle, vous pouviez avoir un taux d'imposition tout compris qui était à 26%. Donc c'est pour ça que la France porte ce dossier au niveau international.
Vous gagnez.
Et donc avant de faire une loi, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà nettoyer toute l'optimisation qui est possible aujourd'hui?
Mais par essence, quand vous gagnez, avec l'argent que vous gagnez aussi des possibilités d'optimiser. Donc ça, c'est plus difficile. Ce serait vraiment un devoir pour les conseils de surveillance, pour les conseils, pour les représentants des actionnaires, de s'occuper de ça. Et je cite l'exemple de Volkswagen, où avec le scandale diesel qui est massif, qui a des retombées judiciaires, l'entreprise a dû mettre en place un plafonnement des salaires des patrons. Mais il a fallu ça.
J'ai aucun doute qu'on reviendra régulièrement sur ce sujet. Merci Léo Klim, journaliste à Paris pour le journal allemand Spiegel. Merci beaucoup à vous Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. C'est toujours trop court ce débat éco. On pourra le continuer encore en dehors de cette émission. En tout cas, ils ont fait, comme chaque samedi pour nous tous, le débat éco.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de deindustrialisierung und
unemployment and lower job
creation.
C'est l'heure de l'actu éco en VO. Chaque semaine, un correspondant nous décrypte un mot qui raconte l'économie de son pays. Cette semaine, on part en Grande-Bretagne.
A new report has found that the UK is facing a new normal of medicine shortages, believed to be due to global supply issues.
Vous avez entendu, hein, le mot de l'éco ce matin, c'est medicine shortages pour pénurie de médicaments. Sarah Menaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Londres. On se croirait presque en France. Les ruptures de médicaments n'arrêtent pas d'augmenter chez vous. Selon une étude récente menée par un cabinet spécialisé sur la santé, elles ont presque triplé en 3 ans. La situation semble donc pire que chez nous. Comment ça s'explique, Sarah ?
Eh bien oui, c'est une étude réalisée donc par le Nuffield Trust. C'est un think tank indépendant spécialisé, vous l'avez dit, dans la santé. Et pour arriver à ces conclusions, eh bien le centre s'est basé sur le nombre de déclarations d'alerte de pénuries imminentes de médicaments au Royaume-Uni. Des alertes qui ont donc presque triplé en 3 ans, passant de 648 alertes pénuries en 2020, à 1634 l'an dernier. Et c'est finalement un phénomène qu'on observe au quotidien, puisque les Britanniques, en ce moment, ont beaucoup de difficultés à accéder à certains traitements. C'est presque devenu la norme. De plus en plus de patients à travers le pays, finalement, voient leur pharmacien leur dire que leur traitement n'est pas disponible. Et ça s'explique finalement par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, effectivement comme en France et comme dans beaucoup d'autres pays européens, notamment depuis la crise du Covid.
Alors soyons concrets, c'est quoi les traitements concernés ?
Alors ça va du simple antibiotique au traitement plus lourd contre l'épilepsie par exemple. Cela concerne également les traitements réservés aux femmes ménopausées ou aux diabétiques. La pénurie concerne par exemple ce médicament, l'Ozempic, ces injections qui stimulent la production d'insuline dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Eh bien pour l'instant c'est très difficile de s'en procurer sur le sol britannique.
Alors le problème, hein, Sarah, c'est que depuis le Brexit, les médicaments ne circulent plus aussi facilement qu'avant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Effectivement, c'est tout le problème, puisque le Brexit, finalement, a isolé les Britanniques de l'effort européen, de la coopération européenne, lorsqu'il s'agit, eh bien, par exemple, de définir la chaîne de production, de définir la livraison de médicaments, cette fameuse chaîne d'approvisionnement. Et puis, du fait de sa sortie de l'Union européenne, eh bien, le Royaume-Uni ne bénéficie plus non plus des mesures collectives qui sont mises en place dans l'UE pour gérer justement ces pénuries. Puisqu'on l'a dit, ça ne touche pas que le Royaume-Uni, mais l'UE fait un effort collectif pour gérer en France, en Espagne, en Italie, ces pénuries. Et là, le Royaume-Uni, depuis le Brexit, se retrouve finalement seul aux manettes. C'est ce qu'il voulait. Mais la conséquence, c'est que le gouvernement britannique est aujourd'hui contraint de déclencher beaucoup plus souvent un mécanisme financier d'urgence. C'est un mécanisme qui lui permet de surpayer des médicaments pour se les procurer parce que les alternatives, les médicaments génériques par exemple, moins chers, ne sont plus disponibles sur le marché. Alors qu'avant le Brexit, avant 2016, ce mécanisme financier n'était pas utilisé plus de 20 fois par mois au Royaume-Uni. Eh bien, fin 2022, on estime quand même que son recours a grimpé à 199 par mois pour un surcoût finalement estimé à 257 millions d'euros. Ça représente tout de même près de 8% du PIB britannique.
Merci beaucoup Sarah Menaï. Je rappelle que vous êtes la correspondante de France Inter à Londres. Il est 9h35, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est Mathieu Gel, le directeur général d'ArcelorMittal France. On parlera JO et décarbonation de l'industrie, je vous assure qu'il peut y avoir un lien. Tiens, justement, dans la course à la décarbonation, l'heure est désormais aux travaux pratiques pour les industriels les plus polluants. Les 55 sites les plus polluants se sont engagés à réduire d'au moins 45% leurs émissions de CO2 d'ici à 2030 et atteindre à l'horizon 2050, la neutralité carbone. Pour atteindre ces objectifs, des investissements massifs vont devoir être débloqués. Et parmi ceux qui se sont lancés, il y a la cimenterie Ekium. On est à Limbres, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Elle vient de lancer un grand chantier de décarbonation avec la construction d'un nouveau four. Allez, on vous y emmène, on pousse les portes de ce chantier avec Jeanne Bergaoui.
On va aller sur le rond-point. Luc Cousin, directeur technique et projet pour Ekium.
On est ici à l'entrée du site d'Ekium. Face à nous, c'est un vrai chantier. Il y a les grues, les tracteurs, c'est un balai continu.
Oui, vous avez choisi le bon jour pour venir. Parce qu'on est en train de déplacer 3 des cuves parce qu'on va construire le four à cet emplacement, qui est notre projet phare de décarbonation sur le site de Limbres.
Avec quels objectifs de décarbonation grâce à ce four ?
Moins 20% de CO2, moins 35% de combustible. On n'est pas encore au ciment décarboné. Hein. Le bas carbone, c'est une étape, mais notre but, c'est vraiment d'aller vers le zéro carbone.
À quel horizon ?
Alors, l'horizon de toutes les entreprises, c'est 2050. À Limbres, on voudrait faire plus vite que si on fait nos deux phases de projet, le four, mais aussi la capture carbone, on devrait approcher la neutralité en 2030. Donc, c'est très en avance sur l'industrie en général. C'est l'investissement le plus important de l'histoire d'Ekium. environ 300 millions d'euros. Ouais, on est aidé par l'État, c'est 40 millions. Et voilà, on va avoir un outil moderne, innovant.
C'est vraiment un chantier.
Là, c'est les camions qui ont amené les grues hier.
Et avec le projet de four Cassis, la cuisson sera moins longue.
Elle sera beaucoup plus rapide, oui, parce que dans la tour, les échanges se font très vite, quelques dizaines de secondes. Et puis le four, c'est environ 20 minutes. Alors qu'ici, la matière reste dans le four environ 3 heures. Donc ici, on est au plancher de chauffe. C'est l'endroit où on injecte les combustibles dans le four et où on peut voir la matière sortir du four à 1500 degrés. Ça permet aussi de relocaliser la production en France. C'est en quelque sorte de la réindustrialisation pour nous, dans notre filière. Donc beaucoup de fierté qu'on puisse continuer à faire du ciment à l'imbre pour desservir les Hauts-de-France, Paris, qui sont nos marchés principaux de cette usine.
Ça va être des process à revoir, des choses à transmettre à toutes les personnes qui travaillent sur le site. Je vois votre collègue qui hoche la tête.
Je suis Vincent Montbailly, je suis secrétaire du CSE de la cimenterie.
Ça fait combien d'années que vous travaillez ici, vous ?
Ça fait 28 ans que je suis à la cimenterie. On n'imaginait pas ce changement, on le souhaitait, parce qu'on savait très bien que des fours à voie humide avec la production de CO2 émise par nos fours, ça n'allait plus être viable. Le changement climatique est bien là. La transition que prend Echium sur la décarbonation des fours permet de laisser quelque chose d'un peu plus serein pour nos enfants et petits-enfants pour le futur.
Alors on parle ici du ciment, mais il y a aussi la métallurgie, la chimie ou encore le verre. En France, les 50 sites les plus émetteurs de CO2 concentrent à eux seuls 60% des émissions industrielles. S'ils ont signé des feuilles de route pour lancer la transition écologique, celle-ci manque parfois de transparence, selon les ONG qui suivent le dossier.
Bonjour. Bonjour.
Merci.
Je suis Aurélie Brunstein, responsable de plaidoyer Industrie Lourde au réseau Action Climat. Alors en novembre dernier, en effet, les industriels ont publié des contrats de transition écologique. Ceux-ci restent lacunaires. Néanmoins, on peut voir tout de même que l'ambition est là, en tout cas a été prouvée par les industriels, et que les objectifs demandés par la stratégie nationale bas carbone sont atteints par ce travail des feuilles de route, en théorie. Maintenant, reste à voir si les leviers vont bien être mis en place, si cela va être bien effectif. On a pu voir dans ces contrats de transition écologique que la plupart des solutions de décarbonation avancées relèvent de nouvelles technologies, dont certaines peuvent s'avérer extrêmement coûteuse et risquée, et c'est par exemple le cas du captage et stockage de carbone. Et nous voulons aussi nous assurer que les entreprises vont déployer en premier lieu les leviers les plus, on va dire, efficaces et les moins coûteux pour la société, c'est-à-dire la sobriété et l'efficacité énergétique, mais également le déploiement de l'économie circulaire.
Concrètement, que va-t-il se passer si un site ne respecte pas ses engagements en matière de réduction, de décarbonation ?
Pour le moment, rien. Les contrats ne sont pas engageants, ce sont plus des preuves de bonne volonté. Et nous, au Réseau Action Climat, nous demandons à ce que, dans le futur, les aides publiques soient distribuées aux industriels en échange de contreparties. C'est-à-dire que nous attendons que désormais les industriels s'engagent à publier et surtout à respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et que, s'ils ne respectent pas ces trajectoires, ils doivent rembourser les montants perçus.
Comment décarboner les sites tout en réindustrialisant la France ? C'est justement la question que je suis allée poser à Olivier Luancy, en charge d'une mission sur le sujet. À la fin du mois, il va rendre son rapport à Bruno Le Maire et Roland Lescure. Je le retrouve dans un espace de travail à côté de Bercy.
Ce qui est marquant, c'est que pendant 40 ans de désindustrialisation, en fait, on a dénigré l'industrie. Donc, notre pays n'a pas une très bonne image de son industrie. C'est en train de changer, mais ce sera long. C'est vraiment un phénomène culturel. Il faut remettre à l'endroit ce que 40 ans de désindustrialisation a mis à l'envers dans nos têtes et dans nos politiques. Et à partir de là, si vous avez une réindustrialisation qui n'est pas décarbonée, qui ne va pas vers l'économie circulaire, elle ne sera pas acceptée. C'est chaque entreprise qui doit regarder son process et se dire quels sont les lieux où j'émets du carbone et que j'ai envie de résoudre parce que symboliquement c'est important, parce que ça pèse lourd sur ma balance carbone, parce que je sais le financer.
Sur la question de l'empreinte carbone, est-ce qu'il va falloir être plus exigeant, plus transparent ? On voit qu'il y a des bilans qui sont plus ou moins sérieux.
Je crois surtout que nous devons passer d'une notion d'émission carbone de notre territoire à une notion d'empreinte carbone. On a quand même été sacrément hypocrite en délocalisant, parce qu'on a délocalisé et notre production et nos pollutions. Et quand on sait que nos quantités de carbone importées sont à peu près la moitié de notre empreinte carbone, on se rend compte que mesurer simplement les émissions que nous faisons dans l'Hexagone, c'est bien, c'est une source de progrès, mais il faudrait quand même avoir un peu la globalité de ce que nous consommons. Donc ma première préconisation, ce serait de dire intégrons le carbone qu'on importe, parce que c'est celui en fait qu'on émet dans notre consommation, dans notre façon de vivre, et c'est bien celui-là qui compte pour la planète, c'est pas simplement celui qu'on a émis sur l'Hexagone français.
Décarbonées et réindustrialisées, nos industries sont-elles capables de tenir ce pari ? C'était le reportage de Jeanne Bergaoui.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Emmanuel Duteil.
Et notre invité en ce samedi matin, Mathieu Gel, directeur général d'ArcelorMittal France, la scierie qui a eu l'honneur de fabriquer les torches et les anneaux olympiques, promet de se décarboner. On veut tout savoir. Bonjour Mathieu Gel.
Bonjour Monsieur Duteil.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin sur France Inter. C'était l'une des images de la semaine. La flamme olympique est partie de Grèce et dans vos usines qu'ont été produits les 2000 torches pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous avez aussi produit les vasques et puis vous avez aussi produit les anneaux qui vont être apposés sur la tour Eiffel. C'est un contrat important pour vous ?
C'est surtout une très grande fierté. Je pense qu'on est extrêmement heureux de pouvoir participer à cet événement planétaire que le monde entier va regarder et fier que nos 15 000 salariés en France puissent être associés au symbole de l'olympisme. Et ça, ça n'a pas de prix.
Il paraît que c'est en acier recyclé. C'est un symbole ?
Absolument. Donc c'est en acier 100% recyclé, issu d'acier qu'on a pu récupérer de votre voiture, de votre lave-vaisselle, de boîtes de conserve et qui au final se retrouve dans une torche olympique ou dans un anneau.
Qu'est-ce que représente aujourd'hui, dans vos ventes, cet acier recyclé ? C'est epsilonesque pour ce contrat, par exemple, des Jeux Olympiques, ou c'est une demande aujourd'hui de toute l'industrie ?
Alors, ce n'est pas epsilonesque si on prend notre procédé de fabrication actuel. Aujourd'hui, vous avez déjà entre 10 et 15% de l'acier qui est utilisé dans notre procédé de fabrication qui est issu d'acier recyclé. Et depuis 2 ans maintenant, on a investi dans notre site de Dunkerque pour doubler l'utilisation d'acier recyclé tous les ans. Donc, on est passé de 1 million de tonnes d'acier utilisé à 2 millions de tonnes par an pour une production entre 5 et 6 millions de tonnes. Donc c'est tout sauf epsilonesque dans le procédé actuel.
C'est un des éléments de votre décarbonation parce que c'est assez basique, hein. Avec l'acier recyclé, on a moins besoin de matière à
absolument
produire et donc on pollue moins d'une certaine manière.
Absolument, c'est la première, notre trajectoire, on a parlé de trajectoire de décarbonation, notre trajectoire de décarbonation est la 3 étapes et la première étape c'est effectivement ce doublement d'utilisation d'acier recyclé dans le procédé actuel qui amène à lui tout seul déjà une réduction de 8% de nos émissions. Donc c'est une première phase, mais elle est absolument nécessaire.
Elle est nécessaire parce que vous avez, vous aussi, des objectifs ambitieux. Une réduction de 35% des émissions en 2035, la neutralité carbone à l'horizon 2050. On l'entendait là dans le reportage, et qui me dit « je vais peut-être aller plus vite que prévu, on est très en avance ». Vous diriez comment, vous ? Vous êtes en avance ou en retard ?
N'est ni en avance ni en retard, on est sur notre trajectoire. Donc notre trajectoire, elle est effectivement de 35% de réduction d'ici à 2030, avec des investissements ambitieux qui ont été annoncés dans les derniers mois. Et je dois dire, pour le moment, on est sur le trait.
Vous êtes sur le trait et c'est capital que vous y arriviez parce qu'il faut avoir quand même idée de l'importance d'ArcelorMittal dans la décarbonation en France. À vous tout seul, Arcelor, vous représentez un quart des émissions de CO2 de l'industrie française. Malgré tout, en présentant là ce plan qu'on va peu qualifier d'ambitieux de décarbonation, vous allez avoir un impact majeur sur l'économie. Mais au-delà du premier aspect de l'acier recyclé, qu'est-ce que vous allez faire d'autre pour réussir justement à être un peu moins pollueur ?
Absolument. Alors, donc, ce qu'il faut déjà expliquer pour comprendre d'où viennent les émissions de CO2, c'est qu'effectivement aujourd'hui, chaque tonne d'acier produite sur la voie au fourneau, qui est la voie majoritairement utilisée en France, émet 1,8 tonnes de CO2. par tonne d'acier. D'accord ? Donc effectivement, quand vous multipliez ça par les tonnes qu'on produit toutes les ans, ça représente un montant d'émissions élevé. Néanmoins, on a mis en place une trajectoire qui est assez claire, pour laquelle on a le soutien de l'État en particulier, qui va consister, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, première voie, développer le recyclage de l'acier dans le procédé actuel, donc qui va nous ramener 8%. Mais surtout, et c'est le gros sujet de notre trajectoire, une deuxième étape qui va consister à remplacer une partie de nos outils, et donc de remplacer le procédé actuel de fabrication.
Et pour être très clair, d'enlever le charbon.
Voilà, de remplacer le charbon par d'abord du gaz naturel et de l'hydrogène.
D'accord ? Mais ça, vous êtes sûr d'en avoir assez, par exemple, de l'hydrogène demain, puisque, et notamment de l'hydrogène vert, on n'est pas certain de cela.
Non, et c'est pour ça qu'on
et
dit
on sait
que
même pas à quel prix il sera.
Alors, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on dit, de toute façon, on va commencer par décarboner avec du gaz naturel. Il faut bien comprendre que le gaz naturel, à lui tout seul, nous amène la très grande majorité des gains d'émissions de CO2 qui sont nécessaires. Mais en même temps, le procédé de fabrication, il est prêt pour l'hydrogène. Et au fur et à mesure, on va enrichir le gaz naturel avec de l'hydrogène au fur et à mesure que l'hydrogène décarboné sera disponible.
Mais vous pensez qu'on aura assez d'énergie décarbonée demain? Puisque au-delà même de l'hydrogène, vous allez avoir besoin de plus en plus d'électricité dans votre processus industriel. Vous êtes dans une zone qui connaît peut-être la plus forte réindustrialisation de la France, hein, puisque vous êtes basé à Dunkerque, dans ce qu'on appelle maintenant la vallée de la batterie. Il y a des gigafactories, des énormes usines qui sont en train de sortir de terre. Vous aurez assez d'électricité demain?
Alors, bon, ce que vous dites est totalement juste, hein, c'est-à-dire que nos besoins en énergie électrique vont quasiment tripler, et ça hors hydrogène, d'accord ? Donc, la décarbonation, c'est avant tout une électrification du procédé de fabrication. En termes de capacité de la France à générer de l'énergie décarbonée, on a la chance d'avoir un parc nucléaire qui est largement développé. C'est pour ça que vous avez vu que, dans le cadre de notre projet de décarbonation, on a signé une lettre d'intention avec EDF en début d'année, qui nous permet justement d'avoir accès à l'énergie décarbonée fournie par EDF. Les scénarios qui ont été développés par le gestionnaire de réseau montrent que le EDF et les autres sont en mesure de fournir. Le gros sujet en ce qui nous concerne, c'est d'acheminer. C'était pour ça que un des grands sujets sur le territoire de Dunkerque, ça va être le passage d'une ligne de 400 000 volts qui va permettre d'acheminer l'énergie depuis le poste de sortie de la centrale de Gravelines jusqu'à l'entrée de notre usine de Dunkerque.
On l'entend, hein, il faut revoir tout le processus industriel et donc j'imagine toute la façon de travailler des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui chez Arcelor. Comment les amener et les former à réinventer eux-mêmes leur processus industriel ?
Alors c'est vraiment un sujet qui va être au cœur de nos réflexions et de notre travail sur 2024. Et c'est principalement un sujet de transition et de compétences. C'est-à-dire qu'on va passer d'un outil à un autre. C'est des outils qui sont différents, qui se conduisent différemment. Et donc il va falloir apprendre des nouveaux procédés et expliquer à chacun de nos salariés, à chacun de nos collègues, qui va passer un jour d'un outil A à un outil B et qui se conduit pas forcément de la même manière. Mais en sidérurgie, on est habitué aux transitions. Vous savez, ça fait voire des dizaines, voire des centaines d'années qu'on est habitué à passer d'un outil à un autre et à développer ceci. Et donc, on a l'expérience pour être capable d'emmener nos salariés avec nous sur ce genre de transition.
Et quand on se décarbone, quand on vient de loin, comme vous, on l'a entendu, est-ce que c'est aussi un moyen de redonner un petit peu de sens au travail de ceux qui font un travail déjà énorme chez vous au quotidien, et notamment de faire revenir les jeunes dans vos usines ?
Complètement. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on les fasse revenir, parce qu'on a quand même.
On sait que l'industrie ces dernières années a quand même du mal à faire venir les compétences. Vous en cherchez beaucoup.
Oui, absolument. Mais alors, donc c'est clair. Hein, on cherche beaucoup de compétences. Néanmoins, on a toujours recruté et on recrute beaucoup. À titre d'exemple, on est une société qui recrute à peu près 300 alternants tous les ans. Et ça, c'est sans compter les embauches normales. Mais là où je veux insister, c'est qu'effectivement, je pense que pour toute une génération qui est en recherche de sens sur son rôle par rapport à la décarbonation, par rapport à ce qu'elle peut faire pour quelque part changer le monde, nous, on amène un projet qui va concrètement changer les choses. C'est-à-dire l'usine aujourd'hui, son empreinte environnementale d'aujourd'hui, dans 5 ans, ne sera plus du tout la même. Et ça, ça a un tel impact au niveau français que évidemment, c'est un projet extrêmement enthousiasmant.
On l'entendait dans le reportage, certaines associations mettent en doute les calculs pour la réduction de la décarbonation, regrettent le manque manque de contrôle, que ce ne soit pas obligatoirement coercitif par rapport à l'argent que vous pouvez aussi recevoir de l'État pour vous aider. C'est le cas notamment sur le site de Dunkerque. L'État va vous aider dans ce process. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous êtes assez contrôlé? Est-ce qu'on peut vous faire confiance sur les chiffres que vous donnez?
Alors, je ne suis pas forcément la bonne personne pour dire si je suis assez contrôlé ou pas. Non, très sincèrement. Donc, d'une part, ArcelorMittal a publié dans le cadre de la concertation qu'on a faite pour le projet de Dunkerque énormément de données chiffrées et claires. Et là, je vais même répondre à la personne qu'on a entendue tout à l'heure concernant la trajectoire climat. Nous, on est prêt à discuter avec toutes les ONG qui sont intéressées pour discuter nos chiffres en détail. Parce que on a la volonté d'être vraiment transparent sur le sujet. Et deuxième point, vous avez vu avec la visite de Bruno Le Maire en janvier, qui a entériné le soutien de l'État via l'ADEME, je peux vous garantir que le contrat que nous avons signé avec l'ADEME est un contrat engageant. Ce mot a été utilisé par la personne qu'on a entendue tout à l'heure. Le contrat est engageant des deux côtés. S'il n'y a pas de réduction des émissions, il n'y a pas de soutien de l'État. Le contrat est extrêmement clair de ce point de vue-là, et c'est très bien.
C'est très bien, comme ça vous tiendrez vos objectifs. L'un de vos gros marchés, c'est le marché automobile. C'est à ça que sert une partie de l'acier que vous produisez. Je crois que vous produisez de l'acier pour une voiture sur deux en Europe. Est-ce que acier vert, ça veut dire acier plus cher? Et donc au final, c'est quand même nous les consommateurs qui, une fois de plus, allons payer.
Alors, l'acier vert coûte un peu plus cher à produire parce que le procédé de fabrication est différent, mais aussi parce que aujourd'hui, vous le savez, les sidérurgistes sont soumis au système ETS qui nous fait donc les émissions de CO2, qui surenchérit le coût de nos produits. Donc ça, c'est une première chose. Au final, nous, on considère que l'acier vert coûte un peu plus cher à développer, coûte extrêmement cher en investissement. On a parlé des montants tout à l'heure, 1,8 milliard d'euros d'investissement, dont 850 millions de support de l'État.
Donc ça va nous coûter plus cher d'acheter une voiture.
Alors, bon, très honnêtement, la part du prix de l'acier dans le coût total de la voiture, c'est pas à moi de vous répondre ça. Il faut que vous en discutiez avec les fabricants d'auto, mais je pense pas que ce soit ça qui sera la grande différence. Mais là où il faut bien comprendre, c'est que la décarbonation, elle a un coût. Mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'ensemble d'entre nous, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une société plus durable sur le long terme.
Et toute dernière question, on en parlait dans le débat éco en début de cette émission. Michelin a annoncé cette semaine qu'il voulait mettre en place un salaire décent pour tous ses salariés. C'est un salaire qui prend en compte la réalité du coût de la vie en fonction de l'endroit où l'on vit. C'est une bonne piste aussi pour les collaborateurs d'ArcelorMittal ?
Alors écoutez, je pense que nous, on a toujours eu, socialement, un comportement extrêmement responsable. Vous pouvez regarder les dernières négociations salariales ou la manière dont nos packages salariaux sont faits. Je pense que l'industrie, de manière générale, en France, quelque chose qui paye raisonnablement
un peu mieux
bien.
Que dans les services.
Voilà. Donc très honnêtement, on veut pas changer ça. Et évidemment qu'on se doit d'être attractif. Et l'attractivité, ça passe par tout. Ça passe par un projet, comme vous l'avez expliqué, un projet qui va quand même changer le monde, mais aussi par, évidemment, des conditions salariales et attractives.
Merci beaucoup Mathieu Gel, directeur général d'ArcelorMittal France. Un grand merci à nos partenaires de France Bleu Nord pour ce duplex depuis Lille.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Et c'est pas encore fini, on peut pas finir sans Sandrine Foulon. Sandrine, on a cette semaine une question de Stéphanie. Elle est salariée dans une école de design. Elle a relayé sur son compte LinkedIn un post sur les souffrances des animaux. Son employeur le lui a reproché. Il lui demande de ne pas partager ses convictions ou de retirer le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Qu'est-ce qu'elle risque ?
Stéphanie, votre employeur ne peut pas vous sanctionner. Alors oui, LinkedIn est plutôt un réseau social à usage professionnel, CV, diplôme, poste actuel, activité annexe. Mais LinkedIn est aussi un lieu d'échange et de débat. Et ce que vous dites sur votre compte perso, Stéphanie, relève de votre vie privée. Vous n'êtes pas sur la page officielle de votre entreprise. Vous pouvez parfaitement faire état de vos activités militantes et de vos convictions animalistes. On touche là au domaine de la liberté d'expression. Votre employeur a beau vous dire que son école de design peut être amenée à travailler pour des clients de l'industrie agroalimentaire, vous ne lui avez causé aucun préjudice. Pour qu'ils puissent éventuellement vous licencier, il faudrait qu'ils puissent démontrer un trouble objectif, la perte d'un gros client par exemple. Ce n'est pas le cas. Il ne peut donc pas vous demander de choisir entre deux volets de votre vie. Vous pouvez afficher les deux.
Mais il y a quand même des cas, Sandrine, où des choix personnels et professionnels peuvent poser problème.
La jurisprudence est assez protectrice. Les avocats rappellent toujours l'histoire de cette secrétaire d'un concessionnaire Renault de la Vienne. En 89, son employeur l'avait limogée. Son crime, avoir remplacé sa R5 par une Peugeot 405. Elle en avait pourtant le droit. C'était sa vie privée et elle ne causait aucun préjudice. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation. La situation est beaucoup plus litigieuse pour les salariés qui travaillent dans ce qu'on appelle les entreprises de tendance. Les associations, les syndicats, les partis politiques, ce sont des organisations qui fonctionne sur la base d'une orientation particulière. Ce n'est pas votre cas, votre école de design n'est pas une entreprise de tendance. Il y a une cloison étanche entre vos activités professionnelles et vos engagements militants. Mais justement, il faut aussi savoir ce que vous avez envie de cloisonner ou pas. Ça veut dire, Stéphanie, choisir des réseaux qui sont parfois plus appropriés au type de message que vous voulez partager.
Et c'est avec vous, Sandrine Foulon, que l'on va terminer ce « On n'arrête pas l'écho ». Sandrine Foulon pour Ma vie au boulot.